VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. La Russie a annoncé ce vendredi qu'elle s'apprête à expulser 35 diplomates américains en réponse à l'expulsion par Washington de 35 personnes considérées comme des agents russes aux États-Unis après des accusations d'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine. Le ministère russe des Affaires étrangères a proposé au président Vladimir Poutine de déclarer persona non grata 31 diplomates de l'ambassade des États-Unis à Moscou et 4 diplomates du consulat général américain à Saint-Pétersbourg, a annoncé le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov dans un communiqué. Rappelons que le président américain Barack Obama a ordonné jeudi l'expulsion de 35 diplomates russes et imposé des sanctions contre les responsables du renseignement russe que Washington soupçonne d'être impliqué dans le piratage informatique qui a visé le Parti démocrate pendant la campagne présidentielle de novembre dernier ici aux États-Unis. Quelle est la portée de ces sanctions américaines prises à moins d'un mois de la fin du mandat du président Obama? Écoutez l'analyse du professeur Souleyman Bachir Diagne de l'Université Columbia à New York.
Une mesure comme celle-là, qui consiste à renvoyer des diplomates et des personnalités qui ne sont pas tellement les diplomates, mais du monde des renseignements, ce nombre-là me semble assez important pour qu'on considère que c'est là une réponse qui correspond véritablement à l'ampleur de la cyberattaque qui a été menée essentiellement contre le Parti démocratique. Il me semble qu'il faut mettre ça en relation également avec le fait que dans quelques jours maintenant, le nouveau président Trump va avoir à s'occuper des conséquences de cette réponse. Or, on le sait, le président Trump a manifesté, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de scepticisme d'abord devant l'accusation de la Russie et deuxièmement devant les sanctions à prendre. Il a encore dit qu'il ne fallait peut-être pas réagir. Donc, la portée se mesure également dans ces termes-là, c'est-à-dire que c'est la place du président à venir, Trump, devant ses responsabilités.
Souleyman Bachir Diagne de l'Université Columbia à New York. Afrique maintenant, RDC, les évêques catholiques mettent la dernière main aux efforts pour trouver un accord entre les protagonistes de la crise congolaise. Le point sur cette médiation de la dernière chance avec Gino Reema de Top Congo FM à Kinshasa.
Toutes les parties restent optimistes quant à la clôture des travaux ce vendredi. À la SENCO, les décors semblent plantés avant les derniers réglages. Pour le secrétaire général adjoint de la SENCO, les évêques clôturent ce vendredi. Abbé Donatien Cholet.
Au début de l'après-midi, la plénière va adopter, nous espérons. Et puis pour clôturer, nous espérons encore à 15h. Mais tout dépend des politiciens qui doivent trancher.
Pour la journée de jeudi, les évêques qui avaient une séance de travail avec un groupe de rassemblement devaient juste après aller rencontrer le chef de l'État sur certainement les quelques divergences qui restent à aplanir. Depuis Kinshasa, Gino Reema de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Félix Tshisekedi, délégué du Rassemblement, la plateforme de l'opposition, est optimiste quant à l'issue de la médiation.
Des questions qui sont encore pendantes. Donc, il y a des questions à régler et dont les détails sont importants. Donc, il faut qu'on se mette bien d'accord. Mais je crois, je n'ai pas l'habitude de le faire, je vais le faire quand même cette fois-ci. Je crois que nous sommes engagés et bien engagés pour bien atterrir en douceur. Je crois que ce sera à partir de 15h, sauf imprévu. Je crois que ça se terminera bien.
Vital Kamerhe, signataire du premier dialogue parrainé par l'Union africaine, est optimiste lui aussi.
J'ai senti de part et d'autre, que ce soit du côté du rassemblement, du côté de l'opposition qui était au dialogue, de la majorité de la société civile, j'ai senti que tout le monde essaie de faire des concessions pour que seule la paix triomphe et que le peuple congolais soit vainqueur de ce processus. Nous ne sommes plus dans des postures où chacun veut être ceci ou cela, où chacun veut gagner contre l'autre camp. C'est cet esprit-là qu'il fallait imprégner à tout le monde dès le départ. Et quand on parle sur cette base-là, on construit des choses durable.
C'était un dossier sur le dialogue RDC signé Gino Reema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Nigeria, la reconquête de la forêt de Sambisa, un des derniers fiefs du groupe djihadiste Boko Haram dans le pays, représente, si elle est confirmée, une victoire majeure pour l'armée nigériane. Mais cette reconquête risque aussi de déplacer les combats contre les djihadistes, qui sont extrêmement mobiles, vers d'autres champs de bataille. Plus de détails avec Michel Joseph.
Après cette année de conflits dévastateurs dans le nord-est du Nigeria, les experts estiment que la guerre est loin d'être finie, contrairement aux affirmations répétées du gouvernement et de l'armée. L'insaisissable chef du mouvement, Aboubakar Shekau, a répondu jeudi par une nouvelle provocation. « Nous n'avons été chassés de nulle part », a-t-il affirmé dans une vidéo, promettant de continuer à se battre jusqu'à l'instauration d'un califat islamique. Les insurgés se déplacent sur le lac Tchad pour échapper aux offensives militaires en cours, selon Aboubakar Gamandi, responsable du syndicat des pêcheurs de l'État du Borno, épicentre du conflit qui a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. C'est d'ailleurs dans ce labyrinthe lacustre que se sont retranchés les hommes d'Abou Moussab al-Barnaoui, leader d'une faction rivale de Boko Haram, adoubé par le groupe État islamique EI en août.
Le Niger voisin a annoncé cette semaine un programme d'amnistie aux combattants de Boko Haram qui déposeraient les armes. Une annonce faite par le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum après qu'une trentaine d'ex-combattants du groupe djihadiste de nationalité nigérienne ont annoncé qu'ils abandonnaient le mouvement Boko Haram. Les programmes de ce genre déjà utilisés en Mauritanie, par exemple, sont-ils vraiment efficaces? La réponse du journaliste mauritanien Moussa Sambassi, spécialiste du terrorisme.
Écoutez, c'est une approche en vue de la résolution de ce problème de l'extrémisme combattant qui a démarré d'abord en Algérie, qui a fait un programme similaire, qui a été le premier pays à mettre en place un tel programme, c'est-à-dire coupler une action militaire énergique avec une ouverture vers ceux qui n'ont pas, en tout cas, des mains attachées par du sang, pour qu'ils puissent réintégrer dans la vie de tous les jours. En Mauritanie aussi, la même approche a été entamée par le gouvernement, qui a organisé une sorte de programme à double voie. Une voie militaire, c'est-à-dire le renforcement des capacités militaires des pays, mais en même temps, essayer de rapprocher les éléments qu'on appelle ici, entre guillemets, égarés, en fonction d'un programme de réinsertion, de prêts financiers, de financement de petits projets, etc., pour qu'ils puissent s'intéresser. Parce qu'en fait, l'analyse est faite que la plupart des jeunes qui sont recrutés par ces mouvements extrémistes ne sont pas des éléments, on va dire, convaincus. Mais simplement, c'est d'exister le chômage qui les pousse dans les bras des recruteurs des mouvements islamistes.
Et pour le cas de la Mauritanie, est-ce que c'est un programme qui marche bien, selon vous?
Écoutez, sur à peu près la cinquantaine d'individus qui ont été concernés par ce programme, je crois qu'on a pu signaler qu'un seul cas de récidive, c'est-à-dire un seul jeune qui a peut-être rejoint les rangs des combattants islamistes. Mais les autres mènent une vie normale au milieu des autres. Enfin, chacun doit engager une activité et apparemment laisser tomber la voie des armes pour régler ces problèmes-là.
Justement, est-ce qu'on peut faire vraiment confiance à un ancien extrémiste qui cherche à réintégrer la société? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre un programme de surveillance de ces personnes-là?
Oui, il y a forcément un risque important que ces jeunes profitent simplement de l'amnistie offerte pour aller rejoindre les combattants. D'ailleurs, il y a eu des cas comme ça aussi bien en Algérie qu'en Mauritanie. Comme je vous ai dit, au moins un cas qui a été signalé. Mais ce risque, la plupart des gouvernements préfèrent le courir plutôt que de rester les bras croisés sans aucune approche. Et je pense que le Niger aussi s'engage sur cette voie parce que, en fait, on essaie, en mettant la pression sur Boko Haram, la pression militaire, mais en même temps, essayer de tarir les sources de recrutement du mouvement. Mais le seul moyen de tarir les sources, c'est d'offrir des opportunités d'insertion aux jeunes qui seraient enclins à les rejoindre.
Le journaliste mauritanien Moussa Sambassi à Nouakchott. Et pour terminer, Mali, retour à Bamako de 159 Maliens rapatriés de Libye en provenance de Tripoli. Plus de détails avec Kassim Traoré à Bamako.
C'est après 6 heures de vol que ces 159 Maliens sont arrivés à Bamako. Ils sont tous des rapatriés volontaires. 45 des 159 étaient en prison. Ils se réjouissent d'être revenus au bercail sains et saufs, car ils étaient tous maltraités par la police libyenne.
Mon objectif, c'était de traverser la mer pour rentrer en Italie, voilà, au pays des Blancs. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je suis arrivé dans un pays maghrébin où vraiment tout s'y est. J'ai vécu seulement que la prison dans ma carrière. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer au pays. Ah, oui, ce soir ici chez moi, ici à Bamako, et Dieu merci.
Certains rapatriés ne sont pas prêts à oublier les calvaires libyens.
La souffrance que j'ai vécue là-bas, c'est seulement quand je suis arrivé aujourd'hui à Bamako à 18h, je pense à ceux qui sont là-bas. Moi aujourd'hui je suis en paix ici, mais ceux qui sont là-bas, c'est seulement dit, je pense beaucoup à eux.
Ce retour volontaire des 159 Maliens de la Libye a été possible grâce au gouvernement du Mali.
Voilà, c'était Kassim Traoré.